Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu, je suis Antoine Longeon. Et cette semaine, comme chaque semaine maintenant, on a pris l'habitude avec notre petit coin confort, tous les deux avec Benjamin. J'ai le plaisir d'avoir Benjamin avec moi qui m'accompagne pour animer ce podcast. Salut Benjamin.
Bonjour Antoine et bonjour tout le monde. Désolé si j'ai parle du nez, je suis un peu enrhumé aujourd'hui.
Ah ouais, t'as un petit passage express qui t'a ramené un petit cadeau surprise. Ce que tu
exactement,
veux raconter. Ouais. Est-ce que tu veux raconter un peu où est-ce que t'allais traîner?
Eh ben, je suis allé à Paris, je suis allé à la capitale, donc voilà, ça m'a perverti. Ah, et puis, du coup, on a fait la GCE, on a tout donné, et du coup, j'ai gagné des bons contacts et une grève.
Ah, est-ce que t'es passé par la Paris Games Week aussi?
Ouais, bien sûr. Et c'est la première fois que je le faisais, et c'était vraiment super. Ouais. Et notamment la partie Game Made in France. C'était vraiment super ça.
Ouais, cool. Et t'as fait les enchères ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui mettaient aux enchères des jeux rétro gaming. Là. J'ai vu passer l'info, je me suis dit, oh là là, ça serait cool. Peut-être des perles rares à choper. Mais...
Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé avec mon associé, on a déambulé à travers tous les stands. On s'est arrêté sur le stand de Eva. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, Eva.
Ouais. Bien sûr, ouais, je vois. Ouais.
Je trouve ça incroyable. Donc, j'ai vraiment envie de tester parce qu'il y en a un à Lyon, donc il faut absolument que je le teste.
Okay.
Et les games made in France. Clairement, on a fait des bonnes rencontres et des jeux super qui vont sortir dans pas longtemps.
Cool.
Enfin, pas longtemps, espérons.
Ouais, espérons, ouais. Alors, moi, j'espère que les rendez-vous sont bien passés pour toi. Et, et du coup, juste pour représenter un peu qui tu es quand même, parce que c'est vrai qu'on parle comme si tout le monde savait, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent avec ce podcast-là. Et ben, Benjamin, toi, tu es président cofondateur de Lucid Factory, et c'est ça qui t'a amené là-bas, du coup, c'est ça?
Exactement, donc un studio de développement basé sur Villeurbanne. Et du coup, nous avons notre premier jeu qui s'appelle Inuloa's Fate, qui est un reverse TD deck building roguelite. Et c'est pour le défendre et trouver un éditeur que nous sommes allés à la Game Connection Europe, qui se passe 2 jours pendant les 5 jours de la Paris Games Week.
Ok, cool, cool. Et bah écoute, stop. J'espère, comme je le disais, les rendez-vous sont bien passés. De notre côté, il faut bien penser à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast, sur les plateformes de podcast. Mettez bien 5 étoiles, donc ça c'est super cool. Je vois que des super étoiles, donc merci. Merci à tous du soutien, de faire remonter le podcast. Et pour, ça donne vraiment de la visibilité pour qu'il soit découvert un maximum, c'est top. Je te propose qu'on démarre peut-être par notre première news, Benjamin.
Mais complètement.
Allez, donc c'est une news qui était parue sur un article sur gamedeveloper.com, qui est un article de Super Evil Megacorp, les créateurs de Vainglory, si je ne me trompe pas, qui est une sorte de MOBA qui est sorti il y a un petit moment déjà, je ne sais plus l'année exacte de sortie, mais
2014.
2014, merci. J'avais plus à situer. Et en fait, je confonds toujours avec l'autre MOBA de LOL. C'était qui était aussi un peu plus Vanquish. Non, c'est pas Vanquish, mais comment ça s'appelle Bon, je me perds. Il ne faut pas que je fasse ce genre de choses en live comme ça quand j'enregistre. Je vais vous retrouver les références que je n'ai pas. Mais ouais, c'est le MOBA un peu sur mobile aussi qui avait été sorti un petit moment. Mais Wild Rift, pardon. Ouais, c'était... Mais c'est peut-être pas du tout la même chose. En tout cas, Super Evil Megacorp, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il parle de comment passer d'un studio solo monoproduit à un studio multiproduit.
Ouais. Ah, complètement. On a un article qui est divisé en 5 leçons, donc il y a quand même largement de quoi lire, et personnellement, je me suis pas mal retrouvé là-dessus. Et en fait, il va expliquer de comment on part d'un projet, donc c'est un projet, ça veut dire tous ces assets, tous ces pipelines de prod, tous les outils pour faciliter notre vie sur notre moteur de jeu. Enfin bref, on construit pour la première fois tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? On ne va sûrement pas y jeter à la poubelle. On va les réutiliser au maximum pour gagner du temps et pour pouvoir aller plus loin sur les prochains jeux. Ouais. Et c'est comme ça qu'il l'explique. Il l'explique en 5 leçons et c'est vraiment instructif. Moi, j'ai vraiment bien aimé cet article.
Ouais. Ouais, et en fait, c'est quand même compliqué quand des fois on construit un studio avec un seul produit autour. Enfin, moi, je l'ai vécu un peu en interne par le passé. sur quelques expériences de studio qui a été construit autour d'un produit. En fait, on va lancer un studio parce qu'on fait un produit, et c'est ce que souvent on fait dans les startups, quoi. Donc, qu'on a un modèle un peu de startup où on va pas se concentrer sur plusieurs produits, on va lancer un produit, on va construire le business plan, l'équipe, tout le plan financier autour d'un produit. Donc, on sait exactement le marché qu'on vise, le positionnement. Du coup, on sait la cible, la part du gâteau qu'on va pouvoir prendre, etc. Donc, c'est quand même important, et on sort ça, et si ça marche, ouais, tant mieux, et puis on a un succès. Mais du coup, de relancer un autre produit, c'est refaire tout cet exercice effectivement, la structure existe, mais tout le reste d'études de marché, de voir le positionnement, est-ce que c'est pertinent ou pas, est-ce que ça rentre. En plus, maintenant, il y a d'autres considérations, c'est ce qu'ils mettent aussi dans l'article, c'est est-ce que l'équipe adhère aussi à
ce projet. C'est super important, je trouve.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il met bien, ouais. Il met bien en avant le fait qu'il faut, avant même de passer en pré-production de son jeu, est-ce que l'équipe est hype par ce projet? Ouais. Est-ce que les leaders ont bien compris le projet? Est-ce que ça hype tout le monde? Et puis ce qu'il dit aussi, c'est que, alors eux, ils ont une vision, après on adhère pas, mais pour eux, a priori, ça a l'air de fonctionner. Que tu sois le PDG ou que tu sois le dernier arrivé de la boîte, tout le monde a le droit de donner son avis sur la conception et la création du projet en cours. Alors j'imagine bien sûr que certaines voix vont avoir plus de poids que d'autres, évidemment, ouais. Mais pour autant, on n'est jamais à l'abri que le gars qui vient d'arriver il y a un mois ait une idée plus que pertinente par rapport à un gars qui est là depuis 10 ans. Peut-être parce que déjà il en veut plus, parce qu'il a plus de mordant et qu'il est moins dans une routine. Et du coup, ça aussi, je trouve que c'est important à garder en tête, c'est-à-dire plutôt que d'aller chercher des prospects qui vont venir décortiquer ton jeu ou le faire tester, commençons déjà par les ressources en interne. Souvent, quand on travaille dans le jeu vidéo, on est quand même tous plus ou moins des joueurs et des joueuses. Donc, on peut déjà utiliser cette première ressource pour savoir si le projet hype ou s'il y a des meilleures idées à prendre.
Ouais. Et c'est sûr, et cette adhésion, elle est importante, parce que si on veut que l'équipe soit embarquée, soit hypée, quoi, par le projet, adhère à ce que fait la direction que prend la société, c'est important que ce nouveau projet qui n'est plus le projet qui a vu naître la société, soit et une adhésion totale de l'équipe, et qu'elle reste enthousiaste par rapport à ce que prévoit de faire la société. Donc ce changement-là n'est pas simple, hein. Donc pour avoir un peu eu des exemples, c'est très compliqué de trouver un projet qui va plaire déjà à tout le monde. C'est quasiment impossible. Mais il faut arriver à vendre. On pense souvent à vendre des projets en externe pour trouver des investisseurs, des publishers, etc. Ou même des banquiers. Finalement, eux, ce qui les intéresse, c'est que le projet soit rentable, quoi. Donc, en gros, montrer qu'ils vont investir et qu'ils vont avoir une rentabilité. Mais il faut aussi convaincre, des fois en interne, où il faut que l'équipe soit intéressée, mais pas forcément sur une histoire de rentabilité, mais plus sur une histoire de motivation, d'adhérence, de valeur par rapport à ce que l'équipe souhaite faire. Donc voilà, ouais. Ça, c'est très compliqué. Et voilà. Mais c'est un article assez intéressant. Voilà, si je vous mettrai le lien à nos deux émissions, si vous êtes un peu dans ce cas de figure. Il y a aussi des problèmes de leadership, des fois, qui peuvent naître, des reconnaissances aussi à bien ne pas privilégier, à chouchouter une équipe plutôt qu'une autre.
De parler de ça, en fait, ça me fait penser que finalement, ce qu'il dit, ça s'adapte surtout, ça s'adapte à tout le monde, mais ouais. Lui, les problèmes qu'il rencontre, c'est que je pense qu'ils sont pas, c'est parce qu'ils sont une grosse entreprise, ils sont pas 8, tu vois.
Oui.
Parce que les problèmes qu'il faut remonter, c'est souvent des problèmes de communication et de gestion et de management interne. Moins t'as d'entremêdes entre
intermédiaires,
d'intermédiaires, plus c'est facile de communiquer, de mettre tout le monde dans le même wagon.
Oui.
Donc, si vous nous écoutez, que vous avez une entreprise de 70 salariés. Je pense que cet article vaut le coup d'être.
Ouais, mais même 30.
Et pour tout le monde. Même 20, 15.
On pense pas des fois, mais tu vois, moi j'étais dans une boîte où on n'était pas si nombreux, on était une quarantaine, je pense, à l'époque. Et on avait trois projets en parallèle. Et c'était pas simple au niveau des, bah, des ressources ou justement cette fois où tu as l'impression que ben, y a moins de moyens qui sont mis sur un tel projet plutôt que l'autre. Et du coup, tu peux avoir un peu des rivalités qui peuvent naître sur des projets entre différents postes où ben, on va dire bah non, mais lui, j'ai besoin de lui et tout. Du coup, quand tu as des ressources qui sont attendues, pas forcément partagées, mais qui sont censées bouger d'un projet à l'autre, etc., et que bah, tu vois, ça peut créer quelques frictions, alors que ça c'est pas forcément pour le bien de la boîte, quoi. Donc,
Complètement.
mais pour moi, c'est vraiment l'organisation. Enfin, tu vois, pour moi, l'organisation idéale d'une société quand elle grossit un petit peu, au-delà des petites équipes et tout, comme tu dis, c'est l'idéal quand t'as pas d'intermédiaire et quand t'es moins de 10, tu peux communiquer plus facilement. Mais quand tu grossis petit à petit et que t'arrives sur des boîtes un peu plus moyennes, pour moi, le rythme de croisière, c'est d'avoir vraiment trois projets en parallèle et d'avoir toujours trois projets à shipper dans différents états, quoi. Donc, il y en a un qui est live, un qui va être sur le point d'être shippé et l'autre qui est en état d'idée. C'est toujours avoir ces trois phases dans une construction de structure. Pour moi, c'est un peu la target idéale. Quand tu arrives à ce rythme de croisière, tu peux te permettre des fois bah, d'avoir des projets qui marchent moins bien et de faire du damage control sur des projets qui foirent en ayant toujours d'autres projets qui vont sortir ou qui performent déjà, quoi. Donc, bon, c'était l'expérience, ça marchait plutôt bien, mais c'est vrai que la communication et ces choses-là qui sont évoquées dans le blog de l'article de Game Developer sont assez vrais. Et donc, bon, il a fait, et puis le gars qui a fait ça, je crois qu'il avait déjà fait la même chose que chez Riot avant. Il avait dû
Exactement.
bouger d'un projet vers l'autre. Je crois qu'ils ont commencé à bosser sur Valorant, je crois. Après LoL, ça a été
C'est
aussi,
ça, exactement.
aussi une transition qui a été assez compliquée. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses ou on passe à l'article suivant.
Non, on va passer à l'article suivant, ouais.
Ouais, c'est autour de l'user experience, donc l'UX, comme on l'appelle tous, c'est la recherche de l'UX en développement de jeux vidéo. L'UX, moi au début, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler côté web, hein. Tout le monde parlait d'expérience utilisateur, user experience dans le web, avec bah, notamment l'arrivée de Flash, etc. Il y a plein de choses qui commençaient à naître. Et petit à petit, c'est un terme qu'on a commencé à retrouver dans plein d'endroits, et notamment le jeu vidéo. Et il y a pas mal de profils qui ont commencé à se spécialiser parce que voilà, il y a beaucoup d'interfaces ou d'expériences. Finalement, le jeu vidéo est une expérience quand même. Donc, quel autre terme, quel autre endroit que le jeu vidéo pour mieux exprimer ce que peut faire un bon UX designer? Et donc, il y a un long article sur gamedeveloper.com qui explique comment faire la recherche du UX dans le développement de jeu. Toi, ton jeu, tu as pu tester peut-être, tu as vu des choses un peu côté UX.
Nous, on a eu l'aide d'une personne pour les débuts, qui nous a aidé un peu à nous repérer à quoi il fallait faire attention, la manière qu'il y avait de réfléchir une UI et donc du coup une UX.
Ouais.
Donc ça nous a beaucoup aidé. Après, il y a eu beaucoup d'itérations, le jeu s'est pas mal transformé. Aujourd'hui, nous allons bientôt pouvoir donner la bête aux personnes qui nous suivent sur le Discord. Donc ce qui fait qu'on va devoir, ça va nous aider justement à itérer la chose encore. Ce que je te disais du coup tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast.
Ouais.
Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important et pour nos prochains projets, c'est quelque chose qu'on pense en amont maintenant beaucoup plus. Déjà parce qu'on a appris de nos erreurs avec le premier jeu et surtout parce qu'on s'est rendu compte que l'UX permet de faire mûrir le projet dans sa vision et dans ses concepts. Parce que quand tu commences à réfléchir à comment le joueur va interagir avec ton jeu, tu commences déjà à réfléchir à la manière que tu vas lui donner du game feel.
Oui.
Forcément, parce que l'UX donne du game feel en grande partie. Et donc, quand tu commences à réfléchir à ça, bah, tu vas un peu plus loin dans ta réflexion. Et effectivement, pour nos prochains jeux, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus mettre l'accent dessus. Alors, celui-là, sur le premier, celui qu'on fait, évidemment, qu'on remet l'accent, mais
Oui.
maintenant, on le mettra beaucoup plus en amont.
Voilà, puis avec l'expérience accumulée aussi, c'est quelque chose que vous pouvez capitaliser et réutiliser sur vos prochaines prods. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet article, hein, comme l'autre, je le mettrai dans le note de l'émission, c'est en fait, il indique que tu peux faire ces recherches du X à différentes étapes de ton cycle de vie de production de ton jeu. Donc, faut pas forcément attendre d'être dans une phase bien avancée, même à l'étape de concept. Sur l'idée, on peut déjà commencer à réfléchir à quel type de UX on veut implémenter. Donc, de réfléchir à comment le joueur va expérimenter certaines choses. Des fois, juste même sur papier, ça peut être faisable. Hein. Et donc, et les montrer à des gens. C'est quelque chose que je peux à une audience quand même. Il faut quand même pas le montrer à une audience parce que, en fait, moi je déteste, si tu veux, j'ai souvent entendu parler d'un truc. Alors, je sais pas si toi tu as entendu cette phrase où certaines personnes disent bah, ce produit il faut qu'un enfant de 5 ans puisse l'utiliser. Je sais pas si tu as entendu cette phrase.
Non, j'ai pas entendu cette phrase, mais alors je lui répondrai que ça va dépendre du style de jeu que tu fais parce que avant qu'un jeu 4X soit jouable par un enfant de 5 ans, hors question.
Oui, mais ça, c'est le pire truc qu'il faut. Enfin, moi, j'ai envie de débunker un peu aussi ici, c'est que c'est une mauvaise croyance de l'UX. Alors peut-être que c'est une phrase qui a été un peu droppée par un des fondateurs d'une grosse boîte, du GAFA, un gros groupe. Je sais pas, peut-être un Steve Jobs ou j'en sais rien, tu vois, mais Steve Jobs. Que je respecte beaucoup, mais c'est une phrase qui a fait beaucoup de mal aux UX designers, je trouve, parce que du coup, il y a des gens qui ont entendu cette phrase-là et le ressortaient souvent en disant « Oui, non, mais attends, ça, je l'ai fait jouer à mon neveu de 5 ans, il comprend pas. Oui, mais c'est pas la cible. » Donc, ça sert à rien.
Par contre, je pense que cette phrase, elle fonctionne bien pour des smartphones. Pour des outils du quotidien, pour...
Des produits de mass market,
ouais. Ouais, voilà.
Oui, oui, totalement, totalement. Et oui, si c'est mais même ça, tu vois, est-ce qu'un smartphone, c'est un produit qui va être utilisé par un enfant de 5 ans? Tu vois, je suis pas sûr qu'il faut. Ok, c'est un enfant de 5 ans, on le comprend, c'est cool, mais c'est pas une finalité.
Non, bah, c'est même. Il faut pas d'ailleurs que ce soit une finalité.
Oui, il faut s'adresser. En fait, c'est comme ça, dans ce concept, cette phase de concept, quand je disais, bah, vous pouvez faire des tests de recherche de X, il faut voir quelle est votre cible et faire vos recherches par rapport à cette cible. Ne prenez pas des gens au hasard dans la rue pour le faire, ça c'est une grosse connerie. Enfin, ça n'apportera absolument pas. Si ce n'est pas votre cible, ce n'est pas votre audience, vous allez vraiment perdre du temps et vous allez avoir surtout des informations contradictoires sur votre expérience utilisateur, sur votre jeu, sur votre produit, alors que ce n'est pas du tout eux. Vos futurs joueurs, quoi, vos futurs clients. Et ça, c'est vraiment un danger, je trouve, des croyances, des fois, de souvent, j'ai entendu la bouche de fondateur, hein, c'est pas forcément. Et du coup, quand on est un peu un UX designer expérimenté, aguerri, on peut s'opposer en disant non, ce que tu dis, c'est pas. Voilà, ça n'a pas de sens. Mais après, quand on est un peu plus junior, c'est vrai que j'ai souvent des UX designers étaient en train de changer 40 fois leur UX parce que ça allait pas. Finalement, l'expérience n'était pas bien meilleur, mais il fallait absolument changer, quoi. Donc c'est vrai que il faut garder en tête quand on fait un produit, un jeu, n'importe quoi, c'est il y a une audience, enfin il y a quelqu'un qui est même si c'est pas l'audience principale qui va finalement jouer au jeu, elle est quand même faite pour une certaine audience. Donc il faut faire nos tests et nos recherches vis-à-vis de cette audience-là, quoi, qu'on cible. Donc ça c'est important, et ce qui est important c'est de le faire à différentes étapes, que ce soit au niveau concept, prototypage, etc., quoi. Donc on fait même au concours de production, même en bêta, etc., il faut faire des choses. Et même quand le jeu release, des fois ça arrive, si vous êtes sur des jeux en game as a service, à changer du X si vous voyez qu'il y a des choses qui apportent une meilleure expérience, quoi. Même si le jeu est sorti depuis un an, vous pouvez changer des choses.
Et il y a quelque chose qu'on a l'habitude de dire dans les écoles quand on intervient, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire un prototype papier. Donc, d'en parler tout à l'heure, parce que le prototype papier, c'est le plus simple à mettre en place et le moins coûteux.
Ouais, exactement, et aucune connaissance technique à avoir aussi.
Voilà, tu le manipules extrêmement facilement, et donc tu peux tester très vite tes principes, tu le prends, tu l'amènes avec toi dans un bar, tu prends le premier gars qui vient qui a l'air d'avoir une bonne gueule, tu lui dis j'ai besoin d'un avis extérieur, tu lui déposes ton truc, tu peux tester en 2-2, et tu te fais un pote, en plus. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais ça fonctionne vraiment, quoi.
Ouais. Après, voilà, moi j'ai conduit souvent des playtesting, surtout, avec pareil, toujours essayer de cibler une audience plus ou moins aguerrie dans le jeu vidéo qui s'est joué, qui serait potentiellement des cibles. Bon, après, c'était pas forcément le cas à chaque fois, mais ça a permis d'avoir des retours assez pertinents et on a pu faire ces changements-là en early stage sur les projets sur lesquels j'ai pu bosser. Ça nous a beaucoup servi, quoi. Donc, après, c'était pas forcément parfait à la fin et il y avait encore des choses à améliorer, mais c'est pour moi, comme beaucoup de choses, c'est pas forcément quelque chose. Qui est fait une fois et après on n'y touche plus. Voilà, tu vois, c'est des choses qui sont à faire de façon itérative pendant très longtemps. Et surtout, enfin, moi j'ai eu une grosse expérience de jeu game as a service. Donc, c'est souvent des choses qui évoluent aussi avec des nouveaux jeux qui arrivent, qui sont plus ou moins similaires, qui ont des expériences, tu vois, qui ont une façon de présenter les infos ou de présenter l'expérience à un joueur sur une telle fonctionnalité qui peut être intéressante. On s'en inspire et on l'applique à un autre jeu, quoi. Donc, c'est des choses aussi qui évoluent souvent.
Ouais, c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu des accords tacites à l'intérieur des genres.
Ouais,
C'est-à-dire que
totalement.
les 4X, tout à l'heure je parlais des 4X, les 4X se présentent un peu de la même manière, c'est souvent des tableaux avec beaucoup d'informations. Les Survivors qui pullulent en ce moment, on va
Ouais.
plutôt avoir des arbres d'évolution dans tous les sens. Enfin, tu vois, et puis le système des cartes, quand il y a du roguelite avec des deck building un peu,
Les
bah,
FPS aussi, tu vois, tu prends les FPS,
bien sûr.
le côté, tu vois, le coup, les tirs avec la gâchette, le coup de crosse avec le bouton R3 ou L3, tu vois, enfin, tu vois, c'est des trucs, bon, en fait, tout le monde fait presque pareil, quoi, tu vois. C'est des choses un peu, bah oui, comme tu dis, à la corde tacite, et c'est des codes qui existent, on les réinvente pas, on se base dessus pour faire les nouveaux jeux. Ça standardise un peu quoi, certaines pratiques.
Oui, complètement.
Et donc c'est intéressant, ça donne quelques tips, ça donne aussi des exemples sur cet article sur des jeux qui ont bien pensé ça, qui ont utilisé ces différentes voilà de retours d'expérience et de certains on va dire pratiques de l'amélioration de l'user experience. Donc c'est assez intéressant de lire ça et de voir comment vous pouvez l'appliquer à vos projets. Moi, je me souviens justement par rapport au web ou l'UX, souvent on essaie de faire en sorte de faciliter le travail, l'accès à l'information pour le joueur et que tout soit assez vite accessible. Donc, j'ai lu là ce qui est assez challengeant, on va dire, c'est paradoxalement, il faut que ce soit accessible et facile l'expérience, mais en même temps, c'est un jeu vidéo. Donc, si on donne tout facilement, il n'y a plus trop de challenge. Donc, il faut aussi, en tant que user clinique et designer, trouver des moyens de rendre quand même le gameplay intéressant, quoi. Enfin, ça limite un boulot aussi de game designer. Donc, c'est à travailler en collaboration avec le game designer pour que l'UX facilite pas trop la vie du joueur ou ne le rende pas plus dur par rapport à l'équilibrage, ça peut peut-être aussi venir changer la donne. Donc,
Ouais, complètement. Et mention spéciale à la première image de
les
cet
articles.
article, en fait, où on voit
Oui.
une tasse de thé qu'un chat avec ses deux oreilles qui sont matérialisées. Et en fait, on comprend que la fonctionnalité, c'est de boire par la petite ouverture entre les deux oreilles. Et en fait, la personne boit la tasse dans l'autre sens, et du coup, les deux oreilles lui rentrent dans les yeux. Et donc, du coup, on ne peut pas boire. Et donc là, ils disent, bah, en fait, le design est cool, mais l'UX derrière est pas du tout adapté, quoi.
Exactement, ouais. Souvent on mélange un peu l'UI et l'UX. Là, c'est vraiment la définition. Enfin, ça image bien la différence entre l'UI. Bah oui, l'UI est joli, hein. On a un très joli UI d'oreille sur ce mug. Et l'UX, par contre, est affreux, quoi. Parce que
Exactement.
ses oreilles rentrent et nous percent les yeux.
Voilà.
Donc, ouais, ok. Super, bah, écoute, je te propose qu'on avance sur la news d'après, c'est aussi une news très intéressante sur Game Developer. Je crois que c'est trois news Game Developer.
Ouais. On est sponsor ou pas, nous?
Ouais, c'est pour sur GameDeveloper.com, mais en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une section sur GameDeveloper.com qui sont les blogs où toi, moi, n'importe qui peut aussi poster des choses dans des articles. Et donc là, c'est souvent des fois des gens qui postent des articles intéressants sur leurs pratiques, sur leur métier et tout. Et cette fois-ci, c'est un article sur la création de briefs artistiques pour comment créer un brief artistique parfait pour un jeu. Donc, en gros, quand vous allez travailler avec des artistes, souvent, si vous dites juste, fais-moi un arbre. Ouais. Alors tu veux comment ton arbre? Parce que vous, pour le grand créateur, ça peut être paraître évident que ce soit un arbre avec des feuilles ou des fruits ou un chêne ou je sais pas. Enfin voilà, ça peut être en comment on appelle ça en low-poly ou en hyperréalisme. Voilà. Bah ouais, tout ça, lui, il va pas le deviner. Donc du coup, il faut le briefer et dire comment cet arbre, je le veux, dans quel style, est-ce que c'est du shading, est-ce que c'est du voilà, c'est du dessiné, dessin 2D, 3D, etc. Et tout ça, enfin, c'est pas si simple que ça. Hein. Donc toi, t'as l'habitude de faire des briefs artistiques.
Alors, des briefs artistiques, nous, ce qu'on fait, en fait, on fait un document de direction artistique quand on crée un jeu. Alors, ce document artistique, il est là pour plusieurs raisons. La première, elle est là pour poser un cadre.
Ouais.
C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, définir les règles. Est-ce qu'on fait du cartoon? Est-ce qu'on fait du réalisme? Est-ce qu'on fait du low-poly, du high-poly? Est-ce qu'on fait de la 2D? Est-ce qu'on fait du pixel art? Enfin bref, on détermine toutes les règles. Alors, bien sûr, avant, on en parle à l'oral, hein, mais on définit toutes les règles. Et après, on va aussi définir les règles via les logiciels qu'on utilise. Par exemple, si y a une couleur qui va être iconique dans notre jeu, ben on met vraiment son code RGB, pour donner un exemple parmi d'autres. Ouais. On va faire tout ça. Et une fois qu'on a ce document de DA, on a une base et on commence. Mais du coup, on commence rien tant que ce document de DA n'est pas fait et validé à la fois par le directeur ou les directeurs créatifs et les artistes qui travaillent sur le projet. Pardon. Et une fois que c'est validé par tout le monde, on attaque. Et bien sûr, aujourd'hui, nous, on a encore du mal à penser à tous les aspects d'une DA en one shot. Donc après, on va itérer sur ce projet. Et donc, du coup, c'est pas vraiment un brief artistique dans le sens dans lequel le parle le game developer. Ouais. Et on retrouve pas mal d'éléments que parle l'article dans notre document de DA.
Ouais, mais limite, c'est vraiment un art bible ou un truc. Ouais. Un art design document, quoi. C'est carrément un truc assez complet pour.
En fait, nous, l'objectif, c'est que si un artiste part et qu'on récupère un autre artiste et qu'on lui fait lire la DA, il est capable de pouvoir travailler et qu'on n'ait pas l'impression que c'est un autre artiste qui a pris la place.
D'accord. Ok. Et du coup, ça se présente souvent nos mood boards avec des références, des choses comme ça aussi qui
sont affichées. Ouais.
C'est un peu ce que.
Les templates de production.
Ouais.
Bien sûr.
Et c'est un peu ce que dit aussi cet article hein, sur le brief artistique, c'est de vraiment donner des références hein, d'autres choses qu'on veut. Moi, j'aime bien une des premières images où justement ils affichent une sorte de canevas avec plusieurs éléments, avec par exemple pour le monde, les couleurs, la DA, les personnages, la typo, les icônes, les habits, etc. Donc ça donne un aperçu sur une image rapide de ce que doit représenter le jeu, quoi, comment le style artistique du jeu. Donc et c'est pas un exercice très simple, parce que c'est vrai que des fois on n'a pas forcément, alors ça dépend de qui réalise ce document, donc si c'est un artiste c'est facile, donc d'où l'intérêt d'avoir un directeur artistique peut-être un peu avec d'expérience qui sait faire ce genre de document qui vous fait gagner ouais. beaucoup de temps. Mais après, si c'est vous êtes tout seul et que vous devez travailler avec notamment des freelances et il faut envoyer des briefs, lisez bien cet article parce qu'il vous donne des tips sur comment faire ça de façon assez efficace, notamment sur les systèmes d'échelle. Par exemple, tu vois, c'est le genre de truc, moi, je ne pense jamais dire, bon, bah, c'est quoi l'échelle des objets par rapport les uns, par rapport aux autres. Est-ce que ton monstre, quelle échelle il faut avoir par rapport à la maison ou ton personnage, quoi. Donc, c'est sûr que si tu as des maisons qui sont en mode Animal Crossing et ton personnage en mode...
Titan.
Ouais, ça, il y aura un problème. Donc, il faut aussi penser à ça, les échelles, au-delà du style artistique, il y a plein de choses auxquelles penser. Et comme tu dis, on ne peut pas tout penser en one shot. On va le trouver au fur et à mesure en faisant des briefs artistiques. Et il y a quand même des exemples. Moi, je suis tombé sur des super exemples sur le net. Et puis là, cet article présente aussi quand même des bons tips pour démarrer. Notamment, il parle des moodboards, comment vraiment présenter le moodboard, présenter l'objet objectifs aussi sur le document, une liste de livrables aussi pour pouvoir dire ben, quels sont les livrables importants, les livrables secondaires, les spécifications techniques, c'est le format de fichier qu'il faut aussi. C'est du Photoshop, PNG, JPEG, pour que ben, les logiciels s'intègrent bien, quoi. Enfin, les logiciels puissent facilement les lire et pour que l'intégration ne soit pas trop galère. Et puis, si de préférence, mettre aussi la version du moteur de jeu, parce que des fois ça peut créer des conflits. Bon, après, on va dire que le PNG, JPEG, sur ces trucs génériques, ça devrait passer. Mais bon, il y a des formats peut-être qui ne sont pas forcément pris en charge. Donc, c'est important aussi de les préciser. Et surtout, si vous faites footbrief pour des freelances, souvent, bah, préparer aussi les deadlines et le budget, quoi. Donc, c'est des choses que je ne fais pas, tu vois, ou je fais mal, on va dire.
Et surtout, surtout, comme on ne peut pas penser à tout dès le début, hein, surtout quand. Mettez à jour votre document de DA quand une nouvelle règle est établie et qu'elle est validée par tout le monde. Parce que ça, c'est le piège. C'est-à-dire que ce document, il prend du temps, il se fait dans la douleur. C'est pas la chose qu'on aime le plus et encore moins les artistes aiment faire. Par contre, une fois qu'il est là, c'est libératoire. Parce que du coup, il y a une partie de la charge mentale qui disparaît parce que tout est écrit et on a un oubli, et ben, on n'a plus qu'à relire et la réponse, elle est là. Mais du coup, si on ne met pas à jour, ben, ça rend caduque le travail, quoi.
Moi, je crois que d'expérience, j'ai connu qu'un artiste qui m'a vraiment fait ça, tu vois. Qu'un seul.
Ben, nous, on le fait faire à nos artistes avec nous pour qu'ils apprennent à le faire pour ben, nous plus tard. Et puis, bon, ben, s'ils vont dans d'autres boîtes plus tard, que ça soit une plus-value pour eux.
Ouais.
Mais c'est compliqué. La rédaction, de toute façon, c'est compliqué.
Non, c'est compliqué. Et puis
pour tout le monde.
Mais la direction artistique, c'est vraiment quelque chose. Moi, je l'ai vu là, tu vois, avec cet exemple-là du cas. Là, tu disais qu'il l'a fait une fois. Et puis surtout, bah, du coup, il peut être ressorti le document et quand il y avait des choses qui étaient hors cadre, c'est-à-dire hors scope de ce qui était fait, où tu vois, le style n'allait pas, ils se sont ressortis le document, ils mettaient en face l'image qui était produite, ils me disaient, bah, regarde, est-ce que ça va, tu vois. Et là, ah, tu vois, l'artiste lui-même, il comprenait, il disait, ah oui, non, en fait, là, j'ai merdé, je ne suis pas du tout dans le style qui a été défini dans le document. Bon, bah voilà, on fait ton truc. Et il n'y avait pas de discussion, quoi. Donc, c'était assez. Mais c'était super bien fait. Enfin, moi, j'étais hyper. J'étais admiratif du boulot qui a été abattu comme ça par ce gars-là, parce que c'est clair qu'après, si tu produis un asset, bah, tu sais que si ça va, bah, ça rentre dedans ou pas, quoi. Donc c'est hyper facile et c'est hyper clair pour tout le monde. Il n'y a pas 38 milliards de discussions, de débats sur est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Non, bah, c'est pas dans l'IA, on ne prend pas, quoi. Donc il y a un certain niveau d'exigence sur les livrables, et donc il faut les respecter. Et donc pour ça, c'est super important. Donc voilà, n'hésitez pas à les jeter un œil sur cet article aussi.
Et surtout, n'hésitez pas à le transmettre à tous vos artistes.
Exactement, et puis abonnez-vous sur gamedeveloper.com, hein, pour passager, comme ça, vous aurez aussi d'autres articles importants, vu qu'on en parle là sur le podcast, mais c'est vrai que c'est un super site. Hein. Avant, je crois que ça s'appelait... comment ça s'appelait avant, gamedeveloper.com? Il y avait un autre nom. Bon, j'ai oublié. Comme quoi, les noms, finalement, ça reste pas... C'était Gamma Sutra, je crois, c'était ça à l'époque. Ça, c'était Gamma Sutra qui est devenu gamedeveloper.com maintenant.
Ah ouais?
Ouais, ça n'existe plus, Gamma Sutra. Ouais. Donc ça a été renommé en gamedeveloper.com. Et du coup, ben, c'est un super ressource pour des articles de ce style. Si vous posez des questions, ben, ça peut toujours aider. Surtout si vous êtes au début de votre studio, de vos projets, ou si vous voulez revoir un peu déjà des process que vous avez en place, pour voir s'il y a des choses que vous pouvez améliorer, c'est toujours intéressant. De regarder des ressources de ce genre. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelques petites news comme ça en vrac ou on passe tout de suite à la conclusion? Comment tu sens? Peux-tu qu'on passe des news rapidement, Benjamin, ou...
Ouais, bien sûr, pas de soucis. Excuse-moi, j'étais mute parce que un peu, donc j'essaye de...
Pas de soucis.
On peut y aller.
C'est pas des news très rapides sur lesquelles on a besoin, tu sais, c'est de trop s'attarder. Hein. C'est ta cascade de news que tu avais entamée.
Ouais, bien sûr.
Donc moi, j'ai repéré deux, trois liens qui étaient intéressants sur notamment le fait que Nintendo est en train d'aider les gens à la retraite au Japon à continuer à... Bah, leur permet de jouer aux jeux vidéo, notamment en jouant à des jeux comme Mario Tennis, Mario Kart ou des choses comme ça dans les maisons de retraite. Donc c'est plutôt cool. Je trouvais ça sympa. Bon, toi, tu me disais que c'est quelque chose qui a de l'avenir. Ça, tu crois beaucoup.
Bah, disons que voilà, moi je suis partisan de dire que dans 15-20 ans, il va falloir créer des maisons de retraite, ou aussi comment on appelle ça? C'est pas des, enfin c'est genre des maisons de pré-retraite.
Ouais.
C'est genre des villages de seniors. Enfin, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais c'est quand tu es en bonne santé, mais que tu
Ouais,
te
les
sens un
EHPAD, non?
peu seul, et du coup tu vas dans ces endroits-là où tu as ton appart à toi, et surtout tu es entre gens de ton âge et de ça quoi. Et je me dis, bah, en fait, il faudra qu'il y ait ça version gamer, parce que tous les joueurs et les joueuses qui ont entre 35 et 45 ans, et qui donc dans 20 ans, 20, 25 ans plus tard, auront 65, 70 ans, bah, on va peut-être se retrouver dans ce genre d'endroit-là où on va tous jouer ensemble, quoi. Moi, pour moi, d'ici les 20 ans, va falloir commencer à y réfléchir sérieusement.
Ouais, non,
Donc,
t'as raison, ouais. Il y a ça
on
peut-être
enregistre ce
l'avenir.
podcast, on le
Et
réécoute
on
dans
le
20
réécoute dans
ans.
20 ans. On voit si comment le business des silver
Ouais.
business pour le gaming a changé d'ici là.
Et l'autre chose que j'aimerais rajouter sur cette news, c'est que, en fait, j'aimerais creuser un peu l'info parce que j'ai l'impression que Nintendo fait beaucoup pour le Japon. Alors,
Oui.
avec ses outils, mais j'avais entendu que déjà à l'époque de la Nintendo, quand elle était sortie, ils faisaient énormément de villages de vacances pour tous les salariés de Nintendo, avec toute leur famille, où ils mettaient à disposition des Nintendo pour que les enfants puissent jouer pendant que les parents puissent reposer et tout ça. Et là, du coup, maintenant, ils font ça avec les seniors. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme actions, mais j'ai
Ouais.
l'impression qu'ils ont quand même
Bah.
envie d'aider leur pays
Moi,
à
je me
leur
souviens,
manière.
tu sais, ouais, mais c'est assez impliqué, hein. Après, je sais pas si c'est culturel ou pas, mais je pense que oui, hein, ça doit être aussi lié à la culture japonaise. Tu sais, pendant là où enfin, c'était un peu la crise et l'inflation, etc., où beaucoup de gens, enfin, les news quand. Tu sais, où j'enchaînais en disant toujours qu'il y avait des licenciements, des fermetures de studios. Eux, ils ont licencié personne et au contraire, ils ont augmenté ces personnels au Japon. Suite à la demande du Premier ministre japonais qui a demandé à toutes les entreprises japonaises de faire un effort et d'augmenter par rapport à l'inflation qui touchait le monde entier, d'augmenter les salaires de leurs employés. Et Nintendo avait joué le jeu et dit OK, nous on vire personne, on augmente tout le monde, quoi.
Ok.
Et ça revient un peu à ce que tu disais. Donc c'est vrai qu'ils font beaucoup pour le Japon. Alors je sais pas s'ils ont appliqué ça en dehors du Japon, pour être honnête. Parce que.
Ça, je pense pas. Et je pense que culturellement, non, pour le coup.
Ouais. Parce que je sais pas si voilà, les copains Nintendo de l'Allemagne, là, par exemple, est-ce qu'ils ont une augmentation? Je suis pas sûr. J'ai pas été creuser l'info. Mais oui, t'as raison, ils font beaucoup pour le Japon, ouais, effectivement. C'est assez chaud, hein. Mais bon, c'est
Bah,
le jeu.
en vrai, je trouve ça bien. Enfin,
Ouais.
c'est quelque chose qui me parle en tout cas.
Exactement. L'autre news aussi rapide un peu, c'est l'e-sport. En gros, c'est un article sur l'e-sport qui est vraiment très populaire, la discipline qui continue à vraiment attirer plus de monde. Il y a pas mal de traction, plus en plus de monde regarde, il y a une plus grosse large audience. Mais paradoxalement, c'est un peu en crise. Il y a des choses qui sont pas forcément positif, notamment des sponsors qui se retirent, même des groupes qui s'arrêtent. Et donc, dans l'article, en gros, il parlait que surtout, ben, en fait, aucune des structures d'e-sport est rentable à l'heure actuelle. À moins que je ne connaisse pas, enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais de ce que disait l'article, voilà, c'est un peu, même si l'e-sport est populaire, ça reste quand même en crise. Toi, tu connais un peu le milieu de l'e-sport ou tu touches un
Non,
peu à ça?
vraiment.
Non, pas du tout.
Non, pas assez. Mais en
Pas
tout cas,
ça.
ce qu'on peut voir, c'est que ça a l'air d'être assez schizophrène, c'est-à-dire qu'on a un engouement certain et de plus en plus gros pour l'e-sport. Là, on voit que pour le Z-Event 22, il y a même Emmanuel Macron qui avait fait une annonce.
Ouais.
Bon, on a quand même la plus haute autorité politique qui fait une annonce pour un event d'e-sport, donc ça montre quand même Bon, déjà, c'est un coup de com', évidemment, mais derrière, ça montre quand même qu'il y a un intérêt. Et comme tu viens de dire, ben, des écuries qui peinent à être rentables, du coup, des écuries qui ferment, et des sponsors qui disparaissent.
Ouais.
Déjà, on a eu entendu là, cette année, notamment BMW qui s'est retiré. Il y avait d'autres choses aussi par rapport à l'OL, LDLC, OL Arena. Non, je ne sais plus ce que c'est le nom du truc de Lyon, là.
OL-LDLC, mais ça, c'est
OL-LDLC,
la
l'équipe, ouais.
team e-sport.
Ouais, la team e-sport qui a l'air de plus trop être en activité. Donc, y a des choses qui bougent. Donc, à voir comment ça évolue, et est-ce qu'il y a un business model à trouver encore, et que ça va prendre un peu de temps, ou est-ce qu'il y a trop d'acteurs et que ça va peut-être aussi se consolider autour de quelques personnes ou quelques structures. Tu vois.
Ah bah, faudra voir.
Ouais, on va voir comment les choses évoluent. Mais oui, c'est sûr qu'il y a de plus en plus, en tout cas, d'audience, il y a de plus en plus de gens intéressés, et ça,
Faudra
c'est cool.
peut-être qu'il faut une meilleure répartition des gains parmi les vainqueurs. Parce
Peut-être. Moi,
que
j'aime bien le modèle de Dota 2, par exemple, sur l'e-sport. Hein. Je trouve ça vraiment cool, la façon dont ils abordent les gains.
tu veux dire avec The International?
Ouais.
Avec le compendium?
C'est ça, exactement. Ouais. De
Bah
pouvoir
ça,
faire.
c'est vachement bien. Ouais.
De permettre à la communauté de décider finalement du montant que tu vas avoir, quoi. Ils ont un prize pool de base, et après il est augmenté en fonction, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, c'est que tu peux
Oui,
acheter le
oui.
compagnon.
Mais par contre, moi, ce que je parlais surtout, c'est de la répartition de cette somme. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais à fond sur Dota 2, d'ailleurs, le premier gagnait déjà X fois plus que le deuxième, qui gagnait X fois plus que le troisième, jusqu'au huitième. Alors, comme les montants augmentaient, je pense que maintenant, il y a plus que les huitièmes qui gagnent. Mais je pense que s'il y avait déjà une meilleure répartition de l'argent, ça permettrait peut-être aux écuries d'être plus nombreuses à s'en sortir.
Oui, c'est peut-être vrai. Après, je sais pas quel modèle. Enfin, tu vois, je connais très peu même le sport classique, même le sport, tu vois, comme le foot, où finalement les gros, ils ont des gros sponsors, des gros budgets, mais avec des investissements de malades, quoi. Tu vois, le Qatari, il y a des Qataris, etc. Pour le PSG, des plus gros clubs de foot, de toute façon européens, sont soutenus quasiment par les mêmes sponsors, j'ai envie de dire.
Exactement.
Mais comment se passe après sur les prix et les retombées financières? Aucune idée, tu vois, parce que est-ce que Saint-Étienne, tu vois, quand ils finissent, je sais pas combien dans leur classement, est-ce qu'ils arrivent quand même à gagner de l'argent? Après, ils gagnent de l'argent par rapport aux entrées dans le stade, aux ventes de maillots, des choses comme ça, mais bon,
Alors,
je...
je crois que, mais alors, je suis vraiment pas fan de foot. Donc, s'il y a
Ouais.
des éditeurs, s'il y a des auditeurs qui veulent nous corriger, n'hésitez pas. Mais je crois que la L1 et la L2, les joueurs dedans, peuvent vivre de leur sport.
Ouais.
Bien sûr qu'il y a une grosse différence entre la L2 et la L1. Et déjà, il y a énormément de différences parmi la L1. Mais je crois qu'au moins L1 et L2, tout le monde n'a pas, enfin, personne n'a besoin de faire un job à côté pour vivre.
Ouais. Ça, je saurais pas te dire, mais moi je pense qu'en L1, oui, tu as raison, en L2, je sais pas si c'est peut-être, ouais.
Donc voilà.
Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de voir justement cette répartition, comme tu dis, ouais, il faudrait qu'il y ait des choses qui soient à revoir, peut-être s'inspirer de sports classiques, qui sont pas forcément mieux, hein, pour être honnête. Il y a aussi des dysfonctionnements dans le sport classique, donc il faut arriver à trouver un modèle qui fonctionne pour tout le monde. Autre news suivante, c'est sur la sortie de GDevelop 5.3 qui a été release. Alors GDevelop, c'est, j'avais déjà traité une fois dans le podcast il y a très longtemps de ça, qui est un moteur de jeu un peu en concurrence directe avec Construct. C'est un moteur de jeu open source pour le coup, GDevelop, qui permet de faire des jeux vidéo jusqu'à présent 2D en no code. Donc c'est vraiment du drag and drop, un peu comme si vous avez déjà fait du Scratch. C'est un peu avec ce style-là. C'est un soft qui s'exécute partout, grosse plateforme, voilà, un client assez léger dans le navigateur. Cette version 5.3 permet de faire du coup de la 3D. Nativement, et il intègre aussi les Steamworks, donc ça permet de pouvoir avoir les achievements, le matchmaking, l'user generated content, l'anti-cheat, les DRM, etc. pour votre jeu. Donc ça facilite la publication de vos jeux sur Steam. C'est un moteur qui est assez facile à prendre en main, donc et c'est gratuit, donc open source, hein, comme je disais. Donc, vous pouvez le compiler vous-même ou aller prendre directement sur le site de GDevelop, tester le truc. Alors il y a vraiment quelques différences quand même par rapport à Construct, donc y a des choses que Construct A que GitHub n'a pas, notamment sur certaines fonctions qui sont beaucoup plus facilitées sur Construct 3. Mais Construct 3, c'est un abonnement annuel, hein, c'est pas très cher, hein, c'est une centaine d'euros l'année si vous êtes en particulier. Mais voilà, c'est des outils no-code, low-code qui sont assez sympas à prendre en main. Donc la version que j'ai développée, la 5.3, a été release il y a pas longtemps, donc vous pouvez aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Tu vois, tu n'utilises pas trop ce genre de choses, tu es pro Unity. Non, hein.
Bah, je suis pro Unity et encore, je ne suis pas développeur sous Unity, donc ouais. Bon, moi je suis. Enfin, je n'ai pas vocation à parler de ce genre de choses, je ne serais pas pertinent.
Ok, ça marche. Puis voilà, ouais, on ne va pas trop s'attarder non plus. Donc, sur la dernière petite news que j'ai vu passer, c'est l'acquisition d'un studio par développeur. C'est la petite boîte qui avait fait, comment ça s'appelle, Astronier, qui a été rachetée par Devolver. Donc, là, récemment. Donc, c'est assez surprenant parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Devolver racheter des boîtes. Donc, là, le rachat a été fait à hauteur de 40 millions de dollars. C'est pas énorme hein, si on compare à Activision Blizzard King par Microsoft, mais oui. C'est quand même sympa pour un petit studio qui est sorti Astronir il y a quelques années, hein, de ça en 2016 je crois, c'est de mémoire qu'on avait regardé la date. La boîte s'appelle System Era et je sais pas s'ils ont sorti d'autres jeux depuis d'ailleurs, bonne question. je suis même pas sûr qu'ils aient sorti d'autres choses, mais ils sont voilà, ils ont été rachetés par Devolver pour devenir un first party studio pour développer des jeux et être publié par Devolver par la suite quoi.
Par contre, je suis en train de lire l'article là. Ouais. Ils disent qu'il y a un deal, donc ça, ils leur achètent 40 millions.
Ouais.
22 millions vont être payés à la signature.
Mm-hmm.
Et après, il dit 20 millions en cash dès que le deal est conclu.
Ouais.
En cash. Mais c'est une façon de dire, non ?
Oui, c'est une façon de dire, mais en gros, c'est qu'il y a 22 millions qui sont payés à Devolver. Et en fait, il y a ouais, tu payes pas tout d'un coup. Après, il y a des choses qui sont récupérées en part, d'autres qui sont payées
en chair et
etc. Okay, voilà,
ouais.
C'est ça. Donc, donc après, il y a des choses aussi sur la potentielle rentabilité de la boîte, etc., qui peut aussi venir rentrer en compte dedans. Donc, il y a des montages un peu compliqués là-dedans. Des fois, c'est vrai qu'on on affiche des gros montants, mais quand on creuse un peu, c'est pas si gros que ça.
Ouais.
Donc c'est un peu du même détection bizarre, alors, monstrueux, mais finalement quand on regarde, il y a des trucs, c'est des fois c'est soit des parts, soit des machins, soit des choses qui sont dealées, mais c'est ouais, final ouais. Ça représente pas le montant qui est annoncé quoi.
En fait ils disent 4 milliards, mais c'est 300 balles sur un coin de table.
C'est ça. Voilà. C'est un McDo, bonjour, au revoir quoi.
C'est... Voilà. Et après par contre c'est 4 milliards de stock options. Bon ouais. Ça ok.
non mais c'est un peu ouais, c'est, des fois c'est les effets d'annonce dans la presse, ça fait bien hein, de montrer des gros chiffres à chaque fois, mais moi je trouvais ça bien, 40 millions pour un petit studio acheté par Devolver qui reste quand même un petit éditeur par rapport à des gros, bon, même s'ils prennent de plus en plus de place, ça, c'est quand même assez récent ces rachats aussi pour ce genre de type de studio quoi. Voilà pour nos cascades de news. Benjamin, je te propose qu'on passe à la conclusion.
Ok,
si ça te va. Alors, Horoscope, est-ce que tu as fait autre chose que aller que bosser ces derniers temps?
Non, malheureusement non. Alors d'un point de vue jeu vidéo, je suis en train de pas mal poncer Légion TD2 avec mon frère.
Okay.
Légion TD2, pour les plus nostalgiques d'entre nous qui ont connu l'ère Battle.net avec Warcraft 3 et les maps custom notamment,
ouais.
Ils ont complètement repris le principe du NFOS. Donc le NFOS, qu'est-ce que c'est? C'est on a un endroit, des créatures qui s'invoquent par vague.
Ouais.
Et en face, pour contrer ces vagues, dans les NFOS, tu avais tes héros issus de Warcraft 3 et tu évoluais. Et bien sûr, tu pouvais payer des paysans qui allaient te miner une autre monnaie qui te permettait d'envoyer des créatures supplémentaires dans les vagues pour finir par tuer tous les héros, en tout cas c'est le but, pour d'accord. aller jusqu'au QG adverse et le détruire. Et c'est comme ça que tu remportais la partie. Donc eux, ils ont repris exactement ce même principe, ils l'ont remis dans leur lore et à leur sauce, et ouais. Sauf qu'au lieu que ce soit des héros, tu poses des tours.
Okay.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est Légion TD2.
Okay.
Ça marche super bien. Ça ah, se fait cool. En... Ça se joue à... non, c'est pas du tout free-to-play, ah, le oui, jeu okay. Il fait 20 euros. Ouais. C'est du 2v2. Okay. Ça peut aller sur du 2v2, v2, v2. Et je pense que c'est le seul TD au monde aujourd'hui qui a un e-sport dessus.
Ah. D'accord.
Avec des compétitions, et notamment, alors c'est pas énorme, mais n'empêche que ça a le mérite d'être là. Le jeu, là, ils ont fini leur tournoi en novembre, la Nova Cup, et il y avait $850 à la clé.
Ouais, c'est sympa, ouais. Okay.
Bah, pour une entreprise qui a que ce jeu, et en plus c'est des Tower Defense,
ouais.
Je trouve ça vraiment très très bien, quoi.
Oui, et puis d'avoir des histoires là-dedans, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué. Et puis ah, le fait qu'ils soient pas, enfin, je pense que c'est assez restreint quand même la communauté vu que c'est un jeu payant. Tu vois, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui, s'il y a beaucoup de joueurs quoi finalement aussi sur ça, sur ce genre de jeu, parce que c'est vrai que souvent les free-to-play, il y a énormément de joueurs, donc il y a une grosse communauté, ça crée un peu plus de traction et tout. Là, en étant payant, ça crée déjà une barrière à l'entrée où il y a plein de gens qui vont pas tester, même s'ils sont curieux, parce qu'il faut payer, quoi. Donc,
bah, ouais. Écoute, nous, ce que je peux te dire, c'est que avec mon frère, on commence à monter. Donc, tu sais, c'est toujours pareil, hein, bronze, argent, gold, platine, machin. Mon frère, actuellement, je crois qu'il est platine. Et quand on joue des parties et que, en fait, quand tu joues une partie en 2v2, ils te disent qui des quatre personnes est le plus haut classé.
Ouais.
Et quand mon frère, c'est lui, et ben, du coup, il est 18 millième.
Ah oui.
Donc, ça veut dire que, alors qu'on joue quand même de manière assez régulière, on n'est que 18 millième. Donc, il doit y avoir, je pense, facile 30K d'actifs sur ce jeu. Ce qui est
ouais.
Génial.
Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est bien. Écoute, cool, mais je vais découvrir un truc que je ne connaissais pas. C'est sympa. Ouais, de mon côté, moi, j'ai regardé. Bon, c'est une recommandation sans être vraiment une recommandation, parce que je ne sais pas si je peux vraiment recommander ça, mais j'ai regardé un film sur Amazon Prime, là, il s'appelle Sentinelle avec. Comment il s'appelle je sais. Bah, Benjamin Cohen, non c'est, pas, comment il, c'est ça, Benjamin Cohen
Jonathan Cohen
Jonathan, voilà, tu vois, je confonds. Hein, je fais un mélange entre toi et. Tu fais pas des films, toi
Pas encore, bientôt.
Jonathan Cohen. Et qui est très drôle, moi j'aime beaucoup Jonathan Cohen. Moi j'avais Family Business, j'étais mort de rire. Enfin, c'est Netflix, si vous l'avez pas vu, regardez-le,
bah,
Family ouais. Business, c'est vraiment
ouais,
exceptionnel.
Très, très bon. Et puis, la flamme Fambleau, très génial.
Ouais, je les ai pas vus du coup, la flamme et le.
Ah bah regarde
les. Ouais, faudrait que je regarde ça plutôt, parce que là c'est vrai que Sentinel, bon, c'est marrant, mais c'est pas sa meilleure perf, quoi. Clairement, voilà. Il y a des trucs un peu lourdingues dans le film, mais ça se regarde, voilà. Si vous avez okay. Amazon Prime, vous pouvez jeter un œil. J'avais vu passer ça pendant. Depuis un moment, il était sur mon truc de. Il faut regarder, donc je me suis dit, bon, allez, on regarde. Parce que j'aime bien, donc voilà. Et puis, bon, mitigé. Voilà. Okay. Et du coup, dans la foulée, je suis tombé sur un Man on Fire que j'ai jamais vu qui m'a un peu fait passer une meilleure soirée. un vieux film avec Denzel Washington. Si vous aimez bien, voilà. Ces films-là, c'est top. Man on Fire et Sentinel. Donc, un peu plus télé en ce moment que jeux vidéo. Okay. Voilà, bah, c'est tout pour nous cette semaine. Benjamin, on te retrouve où du coup? Est-ce qu'il y a des nouveaux endroits? Où est-ce qu'on te retrouve?
Vous me retrouvez toujours dans ma tanière serveur Discord, la page Inou sur Steam à mettre en wishlist.
Ouais.
Peut-être qu'un jour je me lancerai dans l'aventure X Twitter. Voilà.
Okay.
Vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn évidemment, mais je ne suis pas très actif.
Ouais.
Mais ça marche. Peut-être. Et vous pouvez me retrouver bien sûr toutes les semaines sur les coulisses du jeu. Avec Anton.
C'est ça, et bah oui, vous pouvez toujours retrouver les coulisses du jeu sur toutes les plateformes de podcast, hein, comme je disais en intro, où il faut mettre les 5 étoiles. Et puis aussi sur YouTube, la chaîne YouTube, youtube.com/arrobas dans le bon sens, coulisses du jeu. Et puis voilà, partout sur les réseaux sociaux, x.com, et un petit Discord aussi. Et bah voilà, on se dit à la semaine prochaine. Bye.
À la semaine prochaine.